Bonsoir à tous, bonsoir à ceux à qui j'ai pas pu dire bonsoir, justement. Ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir partager la parole avec vous. Je dirais que c'est la première fois en fait que je viens au groupe de jeunes, alors que je suis dans cette église. Mais je suis super content de voir qu'il n'y a pas justement que des jeunes de notre église, et que vous venez un peu de partout, et que vous avez voulu donner de votre temps et de votre vendredi soir pour écouter la parole de Dieu. Donc avant de commencer, je vous invite à prier pour remettre ce moment dans les mains de notre Seigneur.
Oui, Père éternel, c'est vraiment avec humilité, Seigneur, et avec reconnaissance qu'on se place devant toi, Seigneur. Merci parce que tu nous permets, Seigneur, de nous approcher de toi tous ensemble, Seigneur, devant ton trône de grâce. Et merci, Seigneur, parce que tu nous donnes ta parole, Seigneur. Tu nous donnes cette Bible, Seigneur, qui fait autorité, Seigneur, qui est notre guide, Seigneur, et nous voulons te remercier pour la richesse de cette écriture, Seigneur, la puissance également qu'elle a dans notre vie, Seigneur. On veut vraiment que ce soir tu nous guides, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Pas ma volonté, Seigneur, pas mes idées, Seigneur, mais ta volonté, Seigneur. Ton message, Seigneur, que tu veux faire passer à travers moi, Seigneur. Je veux m'humilier totalement, Seigneur, et que tu prennes toute la place dans ma vie, comme le dit mon frère Clément, Seigneur, et vraiment que tu prépares nos cœurs aussi, dispose notre être entier à écouter, Seigneur. Prépare nos oreilles, Seigneur, et surtout, prépare notre cœur, qui peut-être est de pierre, Seigneur, et transforme-le en cœur de chair, Seigneur. Prêt à accueillir ta parole, Seigneur, prêt à t'accueillir comme notre roi et notre Seigneur. Je te remets le reste de cette soirée entre tes mains, Seigneur, et ce moment qu'on va passer en ta présence, dans ta parole, Seigneur. Je te présente tout fils de Jésus-Christ. Amen. Ok. En ce soir, mon challenge, ça va être de vous tenir, enfin, de tenir partie en deux personnes éveillées, qui sont David et Yada. En fait, on suit une formation théologique en ce moment, c'est assez intense. Mais, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux, en fait, à travers cette formation, la fatigue est oubliée, on va dire. Je sais pas pour David et Yada. Mais voilà, ce soir, en fait, on va partager sur un thème. Je pense que vous êtes à peu près tous au courant du thème. Attends, j'aime pas me sentir...
Je me sens bien.
On va parler d'un thème. Est-ce que vous savez c'est quoi le thème dont on va parler aujourd'hui? Vous avez lu le mail ou pas? Est-ce que vous étiez dans la mailing list? Vous êtes incrusté ce soir? Ok, bon, je réponds à votre place. Donc on va étudier être une lumière au sein de sa famille. Pour ce faire, on va ouvrir nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Est-ce que quelqu'un peut se lever et lire pour nous? Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Pas de volontaire. Alors, Éphésiens, c'est chapitre 6, versets 1 à 4. Ok. Merci Sylvie. C'est bon, vous avez tous le passage. Ok, super. Donc voilà, c'est le texte que j'ai choisi aujourd'hui pour qu'on étudie en fait le thème être une lumière au sein de sa famille. Déjà assez rapidement, je vais passer en mode un petit peu théologique, ce que j'ai appris ces derniers jours. Assez rapidement, est-ce que vous savez Éphésiens c'est quoi? On dit Éphésiens, mais Éphésiens c'est quoi? Une? Ouais, ok. Mais plus particulièrement, en fait, pourquoi c'est inclus dans la Bible en fait?
Facilement. Voilà, exactement. Donc c'est une lettre en fait. Donc si en fait ça a été intégré à la Bible, qui est la parole de Dieu, c'est une lettre en fait. Donc Paul a écrit une lettre aux Éphésiens. Il faut savoir que quand Paul écrit une lettre, en fait, c'est pas il écrit une lettre juste comme ça, comme j'écris des mails ou des trucs comme ça. Quand il écrit une lettre, il y a un but bien spécifique, il y a une raison, et il y a un message, on va dire, transcendant, qu'il veut partager aux Éphésiens. Et donc, justement, les Éphésiens, ils viennent de... Ouais, super. Et Éphèse, c'est vers où, c'est... Grèce, Asie, c'est pas pareil. Asie mineure, ça se rapproche. Ouais. Pour ceux qui sont pas bons, ils savent pas où c'est la Macédoine. En fait, c'est vers la Turquie. C'est la Turquie, en fait. C'est à l'ouest, en fait, bon, de l'autre côté, la Turquie, c'est un truc comme ça. Et c'est vraiment sur le côté. C'est portuaire, en fait. C'est une ville portuaire. Donc, Éphèse se situe, au niveau de la Turquie. En fait, c'est une ville portuaire. Qui dit port, dit assez, tout ce qui est, commerce, etc. Et, justement, pourquoi Paul, il écrit une lettre à ces personnes? C'est parce que, il était là, dans Acte 19, en fait, on peut le voir, il était là pour implanter une église. Il a implanté une église durant son voyage missionnaire. Il a passé 3 ans avec eux, ensuite il est parti pour continuer, et donc il leur envoie une lettre. Et le but même de cette lettre, c'est pour, en fait, poser les fondations de l'église. C'est-à-dire, bien sûr, il y a un rappel de la prédestination, du salut, mais il y a aussi, en fait, une instauration des... des bases, des fondements en fait de l'Église, des règles. Et en fait, Éphésiens 5, juste avant, il nous parle aussi des maris et des femmes. On parle du mari et de la femme, comment le mari doit aimer sa femme, comment la femme doit aimer son mari. Et ensuite, Éphésiens 6 nous parle de la famille. Donc c'est vraiment un enchaînement logique où le couple ou aussi la famille est intégré dans l'Église. Donc c'est une place très importante. Et c'est juste une remarque que je fais. Et qu'on reviendra plus tard dessus. Mais ça, c'est assez important. Donc, il a écrit cette lettre pour poser les fondations de l'Église. Et en particulier, il parle de la famille dans le fait qu'il pose les fondations de l'Église. Donc la famille fait partie intégrante du plan de Dieu dans l'Église. Donc voilà. Très rapidement, le contexte est fait. Ensuite, on va voir le thème, comment rattacher au thème, justement, être une lumière au sein de sa famille. Je suppose que tous, ici, vous avez une famille. Ouais. Vous êtes tous des parents, des frères et sœurs? Oui? Ok. Ça me rassure. Mais donc, on va voir, en fait, comment, à travers ce texte, on va pouvoir façonner, comment on va pouvoir, retirer, en fait, les enseignements qui vont pouvoir nous guider dans les relations qu'on va avoir au sein de notre famille. Si je vous dis, qu'on va étudier, enfin, qu'on va s'intéresser à une personne, en fait, plus particulièrement, qui va pouvoir nous guider dans justement les relations qu'on peut avoir dans notre famille. Une personne particulière qui va nous permettre d'être un guide, en fait. Vous pensez à qui? Ouais. Merci, je te donnerai l'argent après. Mais c'est ça, en fait. Avant même de parler de la famille, je pense qu'il est très important de parler de Jésus. Vous allez dire, pourquoi Jésus? Parle de famille, Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire là, entre guillemets? À votre avis, pourquoi Jésus est si important? Pourquoi est-ce qu'il va être le prisme, en fait, enfin, la manière dans laquelle, en fait, on va pouvoir regarder la famille? C'est à travers lui, en fait, à travers Jésus-Christ, à travers cette personne, à travers sa vie, on va pouvoir regarder nos relations familiales. Bon, je vais me répondre à moi-même. Jésus-Christ, il a une particularité, c'est qu'il est 100% Dieu, et aussi, quand il est venu sur Terre, 100% homme. Donc il a cet attribut divin, Jésus-Christ est Dieu, mais aussi Jésus-Christ est homme. Et je pense que on l'a dit aussi, c'est écrit dans la parole, Jean 1, 18, Jésus-Christ, c'est aussi la parole qui a été faite chair. La parole de Dieu qui a été faite chair. C'est-à-dire que lui, en fait, il incarne
tout ce que la parole, tout ce que la Bible nous enseigne, c'est comme si lui, il incarnait tout ça, en fait. Il est 100% Dieu, il est 100% homme, et il incarne lui-même. C'est la parole faite chair. Enfin, c'est littéral, faite chair. C'est comme si, t'es la loi, t'es la parole, t'es la Bible. C'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ça donne un poids aussi particulier, aussi important à sa personne. Il est l'exemple parfait. Il est 100% Dieu. Il est divin, il est parfait. Il est parole faite chair. C'est lui qui a un message à nous apporter à travers sa vie. Et, étant donné qu'il est Dieu aussi, il a pas péché. Il n'a pas péché, donc il est notre exemple à tous. C'est notre exemple par excellence. Donc c'est pour ça que, rapidement, on va étudier, en fait, quelle a été la vie de Jésus, mais plus particulièrement, quelle a été l'obéissance de Jésus. Comment il a vécu ses relations dans la famille. Donc rapidement, on commence Jésus-Christ 100% homme. Donc si Jésus-Christ 100% homme, ça veut dire qu'il a eu des... Ouais, merci. Il a eu une famille, il a eu des parents. Jésus-Christ a eu des parents. Jésus-Christ a eu des parents, il a eu Joseph et Marie. Joseph et Marie étaient ses parents. Et on va voir justement quelle était sa relation par rapport à ses parents terrestres, ses parents humains. Je vais vous lire rapidement Luc chapitre 2, verset 51. Assez rapidement. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Le contexte de ce passage, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, à ses 12 ans, il est parti. Donc en fait, Jésus-Christ est né en Bethléem, en Judée, donc c'est juste en dessous de Jérusalem. Ensuite, parce qu'il y a eu la persécution du roi Hérode, il est parti en Galilée à Nazareth, donc c'est au nord. Et donc à ses 12 ans, il fait le chemin pour aller à Jérusalem, pour fêter la Pâque. La Pâque juive, hein, pas la Pâque des communes inconnues, mais la Pâque juive. Avec les linteaux, le sang, etc., l'esprit. Voilà. Rapidement. Et donc, à ce moment-là, il va à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller dans la synagogue pour faire la fête, entre guillemets, enfin, pour fêter la Pâque. Et, Joseph et Marie, ils s'en vont. Joseph et Marie, c'est tellement des bons parents qu'ils s'en vont et ils oublient Jésus. Ils s'en rendent compte 3 jours après, ils reviennent. c'est fort quand même. Enfin, on n'est pas là pour débattre de Joseph et Marie. Mais donc ils reviennent et ils voient Jésus qui enseigne auprès de la synagogue, qui enseigne les gens. Et d'un côté, c'est quelque chose de bien. Enfin, Jésus-Christ fait quelque chose de bien, il enseigne. Il obéit à la volonté de Dieu. Jésus-Christ est là pour nous enseigner, il obéit à la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Joseph et Marie leur disent reviens. Et on voit qu'il y a quand même cette tension entre la volonté de Dieu et la volonté de ses parents. Et qu'est-ce qu'il fait finalement? Il se soumet. Jésus-Christ, fils de Dieu, est aussi 100% homme. Et comme il est 100% homme, il se soumet aussi à ses parents. Donc là, on voit déjà quand même la soumission de Jésus-Christ à ses parents. Il y a vraiment cette obéissance, cette soumission. Même s'il est 100% Dieu, il est 100% homme et il obéit à ses parents. Ensuite, rapidement aussi, est-ce que vous savez c'était quoi le métier de Jésus-Christ? Charpentier, ouais, super. Est-ce que vous savez ce qu'était le métier de Joseph? Charpentier aussi, ouais. Donc je vais pas vous dire rapidement, si vous le notez, Matthieu 13, 55, n'est-ce pas là le fils du charpentier? Est-ce que sa mère ne s'appelle pas Marie, ses frères Jacques, Joseph, Simon, Judas? Donc là, on voit qu'il est intégré dans une famille, fils de charpentier. Et donc on peut voir aussi qu'il a... On peut imaginer qu'il a vraiment aussi eu cette obéissance et cette soumission à son père. C'est son père qui lui a appris ce métier de charpentier, c'est lui qui l'a aidé, qui l'a conseillé, qui lui a appris. Donc cette obéissance, cette soumission se fait même dans les plus petits, entre guillemets, détails de sa vie, puisque le métier, il a obéi en fait à son père. Il a vraiment cette soumission à son père, que ce soit pour la volonté ou même pour les petites choses dans le travail. Donc ça, c'est important. Donc, Jésus-Christ, 100% homme, il a obéi à ses parents. Ensuite, l'autre partie, c'est quoi? Jésus-Christ, 100% Dieu. Jésus-Christ, 100% Dieu. On va regarder maintenant quel a été son comportement, son attitude envers le Père, envers Dieu. Alors, on va voir l'état d'esprit, en fait, déjà, que Jésus-Christ avait sur cette terre. Jean 4, 34, je vais le lire aussi. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et qui m'a envoyé et de celui qui m'a envoyé, pardon, et de mener son œuvre à bonne fin. Donc on voit que c'est quelque chose, enfin qu'il avait compris son appel, c'est quelque chose de viscéral. Enfin, ma nourriture, c'est ce pourquoi je vis. Enfin, sans cette nourriture, entre guillemets, il n'y a pas de sens, j'ai pas d'existence, entre guillemets. Matthieu 26, 39 aussi. Et là, on va justement voir, commencer à voir qu'est-ce que ça implique, cette obéissance. Matthieu 26, 39, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Donc là, on commence à voir déjà que, étant donné qu'il est 100% homme, entre guillemets, et 100% Dieu aussi, commence à y avoir ce décalage. Si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, que ce qui va arriver, en fait, ne m'arrive pas, si c'est possible. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Cependant, comme je veux, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc, vraiment, cette notion d'humilité, en fait. Parce qu'on n'avait plus Jésus-Christ, c'est 100% Dieu, mais en fait, Jésus-Christ s'est humilié, en tant qu'homme, en fait. Jésus-Christ, Dieu, s'est humilié en tant qu'homme. Et c'est également, en tant qu'homme, c'est également humilié, en fait, à la volonté du Père. Parce que la volonté du Père allait impliquer des choses qu'on va voir juste après. Il savait ce que ça allait impliquer, mais il s'est humilié quand même. Il y a eu cette humiliation, cette soumission, en fait, à Dieu, alors qu'il était aussi 100% Dieu. Donc on a vu obéissance à ses parents terrestres, obéissance à Dieu, qui a nécessité une humilité. Et maintenant on va voir un autre aspect de cette obéissance, qui est l'obéissance dans la souffrance. On a vu l'humilité, maintenant on va voir la souffrance. Donc Jésus était 100% Dieu, 100% homme, c'est très important. Il était totalement parfait, en fait. On se disait, oui, il est 100% Dieu. Il est parfait, donc pour lui, ça ne devrait pas être compliqué, entre guillemets, d'obéir. Ça ne devrait pas être compliqué de faire la volonté de Dieu, entre guillemets, puisqu'il est parfait. Mais on se rend compte que Hébreux 5, 8, bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance dans la souffrance, par la souffrance. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par la souffrance. Donc on voit que le côté 100% homme, en fait, nous apprend que l'obéissance, ça s'apprend, c'est pas quelque chose d'inné, et que cette obéissance aussi, ça va impliquer une souffrance. Et plus tard, je vais un peu plus expliciter, mais déjà, on a cette notion que même Jésus-Christ, 100% Dieu et 100% homme, il a appris l'obéissance par la souffrance. Donc là, on a l'humilité de Jésus-Christ, il s'est humilié pour faire la volonté de son Père, et il y a une autre notion qui est l'obéissance par la souffrance, un apprentissage par la souffrance. Philippiens 2, 8, on l'a lu tout à l'heure, « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Vous voyez, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc il y a eu cette souffrance de faire la chose, et c'est d'obéir, en fait, de pas faire sa volonté, entre guillemets, mais de faire la volonté du Père. Il y a eu cette souffrance aussi dans le but. Donc là, on voit bien que l'obéissance à Dieu avait un but. D'accord? L'obéissance de Jésus-Christ à Dieu avait un but. Quel était ce but? Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le but ultime de l'obéissance de Jésus-Christ, c'était la croix. Comme on l'a vu, non pas ma volonté, mais ta volonté, que cette coupe passe loin de moi. Il savait pertinemment que c'était la croix qui l'attendait. Que le but et la finalité de l'obéissance, c'était la croix. Mais, comme on l'a vu, à travers l'humilité qui a impliqué la souffrance, il a quand même voulu et il a obéi à son Père jusqu'à la mort. Et on peut prendre Romains 5, Romains chapitre 5, versets 7 à 8, pour nous montrer en fait une autre notion. Rapidement, Romains 5, 7 à 8. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez, il est en train de dire, à peine, moi je donnerais pas ma vie entre guillemets pour un juste, pour quelqu'un que j'aime bien. Mais Jésus-Christ, lui, par amour, enfin l'amour de Dieu en fait, nous a impliqué que Jésus-Christ meurt pour nous. C'est l'amour vraiment. L'amour de Dieu qui a permis que Jésus-Christ aille sur la croix pour nous. Et ça c'est très important, donc on a vu l'obéissance, donc on a vu l'humilité de Jésus-Christ, on a vu la souffrance également dans l'obéissance, on a vu l'apprentissage, et là, on a vu également l'amour. En fait, l'amour est une composante essentielle de cette obéissance. Là, on a vu que c'est Dieu par amour qui a envoyé son fils Jésus-Christ, comme on le sait dans Jean 3,16 également. Mais comme Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Et le fait que Jésus-Christ ait donné sa vie, c'est aussi une marque d'amour, en fait. Il a eu cet amour. Dieu, par amour pour nous, nous envoie Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, par amour pour nous aussi, a voulu mourir sur cette croix, a obéi jusqu'à la mort, a été soumis par son humilité, par sa souffrance, par sa mort et par son amour aussi. Voilà. Après, on a un petit peu retracé l'obéissance de Jésus-Christ, l'obéissance à ses parents terrestres, l'obéissance à son Père céleste. On a vu que l'humilité, qui trace cette obéissance, il y avait l'humilité, il y avait également une part de souffrance, il y avait également de l'amour. Donc ces trois choses-là qu'on retrouve dans l'obéissance de Jésus-Christ. Et bien entendu, ce qui est très important aussi, c'est que le but de cette obéissance, c'était de nous sauver. Donc on se rend bien compte qu'en fait, quand Dieu demande l'obéissance, il y a un but. Ok ? Il va pas demander l'obéissance, pour obéir entre guillemets, mais il y a un but précis, en tout cas pour Jésus. Donc voilà. Là, on a assez rapidement balayé entre guillemets la vie de Jésus et compris quelle était la nature de sa relation, quelle était la nature de son obéissance envers ses parents terrestres, envers ses parents, envers son Père céleste. Maintenant, on va se regarder plus à nous. Moi. Chacun de vous dans vos familles. On va parler justement de l'obéissance à nos parents. Oula. Ça va tout dire les choses. Ok. Mais avant de parler d'obéissance, je vais vous parler de désobéissance. Ok, donc mais c'est important, c'est très important de parler de désobéissance avant de parler d'obéissance, de placer les choses dans le contexte avant de nous engouffrer dans ce que la parole va nous dire. La désobéissance. Alors, si je vous parle désobéissance, est-ce que quelqu'un a déjà désobéi dans sa vie à ses parents ou pas? Ouais. C'est bien, franchement tout le monde est honnête. Super. Ouais, donc je pense que on est tous si on se ment pas et si on ment pas aux autres, on est tous conscients que la désobéissance, je pense que c'est quelque chose qui est inhérent, c'est quelque chose qui est automatique, c'est quelque chose qui... Voilà. C'est quelque chose qui est en nous, quoi. Et typiquement, moi j'ai un neveu, il s'appelle Jason, il aura un an dans 5 jours. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'être avec lui, de le garder, etc. Et je me rends compte que c'est vraiment... J'ai pas besoin de l'apprendre, entre guillemets, de désobéir, d'être égoïste, entre guillemets, de pas m'écouter quand je te dis vas-y mange, vas-y sois tranquille quand je te change ta couche, voilà. La désobéissance, même après avec des enfants, vous voyez, quand ils grandissent, s'ils fait pas ci, fait pas ça, voilà, ils font exactement le contraire de ce qu'on leur dit. Mais la désobéissance, en fait, on s'en pense comme si c'est une deuxième nature, en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose, qu'on fait naturellement. Et moi, je dirais que c'est même pas notre deuxième nature, c'est notre première nature, en fait. La désobéissance, c'est vraiment notre première nature. Pourquoi? Parce que la désobéissance est une conséquence du péché, et nous sommes des pécheurs. Au plus profond de nous, en fait, je pense que le seul point commun qu'il y a entre nous ici, c'est qu'on est tous des pécheurs, en fait. C'est ce qui nous rassemble, entre guillemets, c'est triste à dire. Mais c'est ça, c'est la mauvaise nouvelle, en fait, on est tous pécheurs. Par exemple, si on regarde Psaume chapitre 51, verset 7, quelqu'un peut le lire?
Psaume 51, verset 7. Donc là, c'est David qui parle. David, le roi David, genre le mec assez au top, quoi. Et il reconnaît que dès ma naissance, j'ai été conçu dans le péché. Même, avant même que je naisse, en fait, quand j'étais dans le ventre de ma mère, avant même que je sorte dans ce monde, j'étais déjà pécheur. Le péché, nous sommes les pécheurs, en fait. Et en fait, ça fait vraiment suite à quand David en fait a péché contre Bathsheba. Donc ça, c'est vraiment le psaume en fait que David a. Ouais, quand David a fait adultère en fait, avec Bathsheba, c'est vraiment à la suite de ça qui. Ok, voilà, je reconnais que j'ai péché, mais en fait, voilà, c'est même tous les péchés en fait, la source même du péché. Bah, je l'ai depuis ma naissance, en fait. C'est ce qui était déjà en moi qui produit tout ce que je fais par la suite, la désobéissance, etc. Et donc, on sait que, vu que la désobéissance est un péché, à votre avis, comment Dieu, considère cette chose? Hein? Ouais, c'est ça. La horreur de ça. On va regarder, je vais vous lire rapidement, Exode 21, 15, 17. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Est-ce que vous avez déjà frappé votre père ou votre mère? Non? Ouais, c'est vrai, j'avance. Ouais. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc là, juste pour vous placer le contexte, hein, que Dieu parle aussi de cette désobéissance envers les parents. Et que Dieu a un châtiment très précis. Ensuite, vous allez me dire, ah, mais nickel, c'est dans Exode. Exode 21, c'est dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ. Nous sommes affranchis. Pas besoin, c'est pas grave. Mais sachez que Dieu est immutable. Dieu ne change pas. Dieu est le même. Si Dieu condamnait, à cette époque-là, le fait de frapper sa mère ou son père, de maudire. En fait, en gros, c'est comme les 10 commandements. Juste même le fait de penser, c'est déjà les pensées qu'on a, c'est comme des actions pour Dieu. En fait, Dieu nous lit comme dans un livre ouvert. C'est tout ce que nous pensons, toutes les mauvaises pensées qu'on peut avoir. Et le fait est que la substance même de cette loi, c'est ça. La rébellion, la désobéissance contre nos parents, elle est punie de mort. C'est un péché. Et je pense qu'on ne peut pas être plus clair en fait avec la sentence. Et donc, on se rend bien compte de la gravité de la désobéissance, du péché, qui est vraiment la source et l'origine même de cette désobéissance. Et je pense que si on regarde plus finement en fait la source de la désobéissance réside en un seul mot, et c'est un peu le thème en fait du péché. En fait, le péché se caractérise par l'orgueil. L'orgueil, c'est vraiment ce qui caractérise en fait notre désobéissance. On peut regarder par exemple, on prend un exemple, Satan, quand il a désobéi à Dieu, quand il a décidé de, entre guillemets, faire son armée et de se rebeller, entre guillemets, contre Dieu, de désobéir à Dieu, c'était l'orgueil. Qu'est-ce qu'il voulait? Il se disait à l'égal de Dieu. Il a dit, oui, moi, ange, en plus créature de Dieu, je pourrais être à l'égal de Dieu. Je vais désobéir à Dieu. On regarde Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont été tentés, et qu'est-ce qui les a poussés à franchir, entre guillemets, la ligne du péché? C'était l'orgueil. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Satan? Il leur a dit, mangez de ce fruit et vous serez comme des dieux. Exactement. L'orgueil, la volonté de se dire, ah mais, ça se trouve, je serai comme Dieu. Enfin, je serai supérieur, en fait. Supérieur à ma condition de maintenant et je me prends entre guillemets pour ce que je ne suis pas. Et l'orgueil est vraiment la source même, en fait, de cette désobéissance. Pourquoi je dis ça? Je pense que pour revenir plus à nous, personnellement,
Par exemple, quand mes parents me disent de faire quelque chose, je pense que ce qui me vient directement à l'esprit, c'est je vais pas t'obéir. Pourquoi? Parce que d'un côté, je vais vivre ma vie. Enfin, c'est ma vie, c'est pas la tienne. Donc, je sais mieux que toi. Je t'arrive là-dessus. Hein. Je sais mieux que toi comment vivre ma vie. Et je suis, entre guillemets, je suis l'égal de toi, ou même peut-être supérieur à toi, pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Tu ne peux pas, toi, m'imposer quelque chose. Et je pense que cet orgueil nous conduit et nous induit, en fait, à désobéissance. C'est parce qu'on se sent supérieur, c'est parce que qu'on croit que les conseils ou les choses que les parents nous disent ne s'appliquent pas à nous, qu'on va désobéir. Et maintenant qu'on a vu la désobéissance à travers le péché originel, qui implique également l'orgueil, et l'orgueil qui nous fait, entre guillemets, cette rébellion contre Dieu tout d'abord et contre nos parents aussi, on va voir maintenant les raisons de l'obéissance, justement. Si on regarde le texte, donc Éphésiens 6, verset 1, qu'est-ce qui est écrit ? Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Ok ? Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. On prend un verset parallèle dans la Bible, Colossiens 3:20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Ok ? Cela est juste, cela est agréable dans le Seigneur. L'obéissance a été voulue par Dieu. C'est sa volonté, en fait, ça lui est agréable, c'est quelque chose qui lui fait plaisir, cette obéissance. De par sa nature, c'est quelque chose qui correspond à ce qu'il est, à ses caractéristiques, à sa nature. Donc, Éphésiens 6, 1, Colossiens 3, 20, enfin, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable, car cela est juste pour le Seigneur. Mais, on peut se dire que cette volonté, et le fait que ce soit agréable, elle revêt plusieurs aspects, en fait. C'est agréable à Dieu, mais d'accord, c'est agréable à Dieu, c'est juste, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est agréable à Dieu? C'est comme si je disais, Dieu veut que je fasse ça. Mais comme on a vu, il y a un but, en fait. D'accord, c'est agréable à Dieu, ça plaît à Dieu, c'est juste, mais il y a un but derrière notre obéissance. On va voir rapidement les raisons de cette obéissance qui est voulue par Dieu. Tout d'abord, comme on l'a vu, comme j'ai décrit, en fait, tout d'abord, il y a Jésus-Christ, en fait. Jésus-Christ, fils de Dieu, 100% Dieu, 100% homme, a obéi à ses parents. Jésus-Christ a obéi à Dieu. Donc c'est un exemple pour nous, en fait. C'est agréable à Dieu parce que nous allons obéir, en fait, suivre l'exemple de Jésus-Christ. Comme on l'a vu, en fait, Jésus-Christ a vécu une vie parfaite. Jésus-Christ n'a pas péché. Jésus-Christ a parfaitement obéi à ses parents et à Dieu. Et donc, c'est pour ça que le fait qu'il soit déclaré juste et soit voulu par Dieu, c'est parce qu'aussi Jésus-Christ l'a fait, en fait. Jésus-Christ a réalisé ça. Et le fait d'obéir à Dieu, en fait, c'est comme si on suivait notre modèle, notre exemple, qui a été Jésus-Christ. Et attention, je dis pas que cette obéissance, Jésus-Christ est notre exemple, entre guillemets, mais Jésus-Christ est aussi le consommateur, l'auteur même de notre obéissance. Et c'est ce qu'on va voir après. Mais donc, déjà, première chose, Jésus-Christ a été un exemple pour nous d'obéissance envers ses parents terrestres et célestes. Et donc, c'est bon pour Dieu, entre guillemets, parce que Jésus-Christ a été cet exemple pour nous. Ensuite, deuxièmement, comme je vous l'ai dit, la famille, c'est quelque chose de très important par Dieu. Quand Dieu a fait la création, tout était bon. Quand Dieu a créé l'homme, tout était bon. Les plans de Dieu pour la terre entière étaient parfaits. Il avait un dessein parfait pour l'homme, pour la femme. Également, il leur avait donné une directive par rapport à à leur vie en fait. Genèse 1, 28, il leur dit reproduisez-vous et multipliez la terre. Reproduisez-vous et multipliez la terre, il avait un plan, un projet à travers ça. C'était bien sûr la famille, comment se reproduire, comment multiplier la terre à travers la famille. La famille était un plan de Dieu pour réaliser le principe régulateur, on va dire, de Dieu pour la terre. Dieu voulait, en fait, toute la création, si on y réfléchit bien, quel était le but de la création de Dieu? Quel était le but de la création de Dieu? Hein? Ouais. C'était vraiment montrer la gloire de Dieu, en fait, pointer vers Dieu. Tout ce que Dieu avait fait, tout ce que Dieu a institué à travers tout ça, c'est vraiment pour pointer vers la gloire de Dieu. La famille également, le moyen à travers lequel l'homme allait pouvoir remplir la terre, était aussi un moyen pour pointer vers Dieu. Et c'est pour ça, la structure de la famille déjà est très importante, et l'obéissance au sein de la famille était aussi quelque chose qui était voulu par Dieu. Parce que c'était le seul moyen pour Dieu de transmettre sa gloire, de transmettre ses commandements, de transmettre sa volonté. La famille était la structure idéale, entre guillemets. Et on se rend bien compte qu'en fait, quand on parle d'église, à Éphèse, je vous avais dit que le but d'Éphésiens, c'était de mettre, entre guillemets, les fondations pour l'église, de donner des principes régulateurs, des directives. Et on se rend bien compte que la famille, justement, est le plus petit dénominateur commun, on va dire, des églises. Qu'est-ce que c'est une église? En fait, c'est composé de familles. Une église est composée de personnes qui sont dans les familles, et ce sont ces groupes de personnes qui s'agrègent, entre guillemets, et qui forment la famille. Et c'est pour ça l'importance, en fait, de l'obéissance dans la famille, c'est parce que Dieu avait un plan parfait pour l'église et pour la famille, et ce plan parfait se traduisait par l'obéissance, en fait, au sein de cette famille. L'obéissance que le père et la mère, entre guillemets, sont des autorités, et qu'ensuite, les enfants leur sont soumis et leur obéissent. Donc on a vu, Jésus-Christ a obéi, la structure même et la création même de Dieu à travers la famille devait refléter cette obéissance. Et aussi, on va voir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la souffrance est une part aussi de l'obéissance. Qu'est-ce que l'on voit par souffrance? Si on regarde dans Galates 2:20, c'est écrit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc là, on introduit vraiment une notion de souffrance. On se rend bien compte que nous, quand on obéit, ça nous coûte. Pourquoi, comme je dis, j'ai entre guillemets, j'ai mon orgueil, j'ai ma volonté. Je me dis, je connais mieux, entre guillemets, ma vie que mes parents, mais cette obéissance, elle nous coûte et elle n'est accessible qu'à travers, comme on l'a vu, c'est Christ, en fait. Cette obéissance n'est possible qu'à travers Christ. C'est Christ qui vient en moi. Je vais crucifier ma personne, je vais crucifier mon orgueil, je vais crucifier mon ego, je vais crucifier mes désirs, entre guillemets, que ce soit Christ qui vit en moi. Soit Christ qui soit la personne qui va pouvoir me pousser, m'amener à cette obéissance envers mes parents. Donc ça, c'est une autre notion qu'on retrouve aussi chez Christ. Hein. On a vu que Christ aussi avait souffert pour obéir à son Père céleste. On a vu que nous aussi, cette souffrance, elle est en nous, à cause de notre orgueil, à cause de notre volonté, mais que c'est Christ qui va nous permettre de parfaire cette obéissance. Et il y a également une dernière chose qu'on peut voir, c'est que, comme je l'ai dit, l'obéissance, en fait, elle nous amène aussi à une connaissance de l'Éternel. Ok? L'obéissance nous amène aussi à une connaissance de l'Éternel. Je vais vous lire rapidement Proverbe chapitre 2, versets 1 à 5, qui dit: mon fils, si tu ressens mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu tends ton oreille à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor,
alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc là, en fait, quand il dit mon fils, c'est en fait le Père hein, qui parle à son fils. Donc si tu reçois mes paroles, si tu gardes mes préceptes, donc si tu m'obéis, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. On se rend compte qu'à travers l'obéissance aussi, cette obéissance voulue par Dieu aussi, il y a une raison particulière, c'est la connaissance de Dieu. L'obéissance va nous permettre, bien entendu, d'obéir à nos parents, parce que c'est le plan de Dieu, parce que Jésus-Christ a obéi, parce que Dieu a créé la famille et a fait une structure. C'est l'ordre créationnel de Dieu. Mais il y a aussi cette connaissance, en fait. Cette connaissance de Dieu qui va nous permettre, justement, de... En fait, c'est comme si... Donc si j'obéis à mes parents, je vais avoir cette connaissance de Dieu en gardant les préceptes de mes parents. Mais cette connaissance de Dieu et cette connaissance en fait de ma personne ne doit pas être comment dire ne doit pas être sans action. Enfin, ce que je veux dire, c'est que d'accord, j'ai une connaissance de Dieu. Mais en connaissant Dieu aussi, je vais connaître mon péché en fait, parce que c'est par la connaissance de Dieu, par la parole que mes péchés vont être révélés. En connaissant mieux Dieu en fait, je vais mieux me connaître moi, ma nature de pécheur. Et cette nature de pécheur, c'est comme si je disais ouais ok je sais que je suis pécheur, enfin je connais mieux Dieu. Dieu se révèle à moi, Dieu me révèle mon péché aussi. Et voilà je connais mais c'est tout. Enfin je connais, je reconnais. Mais c'est tout. C'est-à-dire, en obéissant à mes parents, j'ai une meilleure connaissance de Dieu, j'ai une meilleure connaissance de moi, de mes péchés. Et voilà. En fait, la question, c'est qu'est-ce que je fais? En fait, le schéma que je vais vous montrer, c'est que, à partir du moment où on obéit à ses parents, on a vraiment une connaissance de Dieu qui va nous permettre d'avoir une connaissance de nous, en fait, de notre état de pécheur. Et cette connaissance ne doit pas rester juste une connaissance, mais ça doit nous amener, en fait, à la repentance. Cette connaissance de nous, à travers nos parents, à travers l'obéissance, ça va nous montrer, en fait, nos péchés. Parce qu'en gros, regardez, on avait dit l'orgueil. L'orgueil, si vous voulez, il se place, entre guillemets, sous deux vices. Il y a l'orgueil dans le sens où je me dis je suis un peu l'égal de mes parents, ok? Et il y a l'orgueil où je me dis ok papa maman tu me dis de faire ça, je sais que c'est bien, enfin je sais que des fois c'est t'as raison, tu me montres entre guillemets ce qui est pas bon, mais je t'obéis pas parce que je suis orgueilleux. Et en fait on peut transposer ça à notre péché en fait, c'est comme si quand je pêche je dis ok moi je suis l'égal de Dieu, ok je pêche mais en fait c'est pas grave, je veux me prendre, quand je veux me prendre à l'égal de Dieu. Et aussi quand Dieu va me montrer, à travers sa parole, que je suis pécheur, bah qu'est-ce que je fais? Je décide de rien faire, entre guillemets. C'est comme cette analogie, en fait, entre l'obéissance des parents et l'obéissance à Dieu. Mais vraiment, c'est deux aspects d'orgueil, en fait. Dans le fait que je me dis je suis égal à mes parents ou je suis égal à Dieu. Le deuxième aspect c'est d'accord papa tu me dis de faire entre guillemets ce qui est bien. Je comprends que c'est quelque chose de bien, mais je vais pas le faire. Donc je t'obéis pas. Et de la même manière quand Dieu se révèle à nous, s'il nous montre nos péchés, je veux dire ok Dieu je reconnais entre guillemets que je suis pécheur, mais je vais pas le faire parce que je suis orgueilleux, parce que je veux entre guillemets avoir mon libre arbitre et ma volonté. Donc à travers la repentance on va justement s'attaquer à ces deux choses-là. S'attaquer au fait que je me prends à l'égal de, enfin, que je me mets à l'égal de Dieu. Donc, c'est cette humilité, en fait. Cette humilité face à Dieu que moi, je suis un pécheur, en fait. Et que j'ai pas cette position face à Dieu. Je suis pas l'égal de Dieu, mais je suis un pécheur. Et cette humilité aussi face à la parole de Dieu qui nous travaille et qui nous dit tu es pécheur. Donc, tu dois changer d'attitude, tu dois changer de comportement. Donc c'est vraiment ce double orgueil, on va dire, que l'humilité et la repentance va nous permettre de travailler. Donc on a vu, obéissance aux parents, parallèle avec l'obéissance à Jésus-Christ, aussi, c'était la volonté de Dieu dans la structure même de la famille. Aussi, l'obéissance de Dieu nous amène une meilleure connaissance de Dieu, en tout cas une meilleure connaissance de nous. Et cette meilleure connaissance de nous nous amène à la repentance. Nous amène à la repentance par rapport à ce qu'on a pu faire. Et ça va nous permettre, bah, justement, de continuer à obéir à Dieu. Donc, si vous voyez, en fait, c'est comme si, en fait, l'obéissance aux parents, le but de l'obéissance des parents, c'était en fait l'obéissance à Dieu. Et une sorte de cercle, comment dire, vertueux, voilà, qui se dessine, c'est quoi? Dieu nous dit, obéis à tes parents, j'obéis à mes parents. En obéissant à mes parents, en fait, comme on a vu, en fait, ça a pointé l'obéissance envers nos parents, ça va nous amener à la connaissance à Dieu, et la connaissance en Dieu va nous amener à l'obéissance à Dieu. En fait, Dieu me dit d'obéir pour moi, j'obéis à mes parents, mais quand j'obéis à mes parents, en fait, ça me permet de mieux connaître Dieu et d'obéir à Dieu. Donc en fait, il y a vraiment ce cercle vertueux, en fait, qui est en marche à travers l'obéissance de nos parents. Dieu avait un but précis, comme pour Jésus-Christ, de cette obéissance. L'obéissance pour Jésus-Christ, c'était la mort sur la croix. Et le but de l'obéissance à nos parents que Dieu nous donne, c'est pour avoir cette obéissance à Dieu. C'est le but final, en fait. Et si on regarde, en fait, dans Luc, chapitre 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Vous voyez, en fait, c'est, comme je l'ai dit, le but même de l'obéissance aux parents, c'est l'obéissance à Dieu. Et à travers ça, en fait, on se rend compte que c'est vrai, si, entre guillemets, nos parents qui n'ont pas, entre guillemets, la moralité parfaite de Dieu, si déjà nous, on n'arrive pas juste à obéir à nos parents, comment est-ce qu'on peut prétendre pouvoir obéir à Dieu? Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle dans les grandes. Donc c'est comme si, en fait, il y a aussi dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7 cette notion de éprouver. Vous voyez, 1 Pierre 1 7 nous dit que nous sommes comme de l'or qui va être éprouvé par le feu. Et j'aime aussi cette image où notre obéissance à Dieu, en fait, va être comme un moment où on va être éprouvé, en fait. Dieu va nous dire, ok, bah, déjà, je mets un peu le feu, je mets des circonstances et je te mets un certain guide pour obéir à tes parents, pour ensuite, que tu aies une meilleure connaissance de moi et que tu puisses ensuite obéir à de plus grandes choses pour moi. Donc voilà, le but même de l'obéissance à nos parents, on a vu, la finalité même à travers le plan créateur de Dieu, à travers le sacrifice de Jésus-Christ, à travers la connaissance qu'on a vue dans le proverbe, c'était vraiment l'obéissance à Dieu. Et si on regarde dans le verset 2, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Donc on a vu, en fait, à travers l'obéissance, on a vu quoi? On a vu l'humilité qui est consécutive à l'orgueil, l'orgueil qu'on place en nous, l'humilité, le remède à travers la repentance en Jésus-Christ. On a vu aussi que ça, il y avait une notion de souffrance. Il y a la devance, nous devons être crucifiés avec Christ sur la croix pour que Christ vive en nous. Et là, on va avoir une autre notion. Et si vous vous rappelez des notions que j'ai dit tout à l'heure pour Jésus-Christ, consécutives. Voilà. Oh, merci, Nene. T'es trop rapide. Donc là, c'est l'amour, en fait. C'est l'amour. Quand on dit honorer, c'est une notion encore plus forte que l'obéissance. Ok, moi je vais dire, ok, mon père ou ma mère me dit de faire ça, ok, je vais le faire. Mais, quel est le sentiment profond intérieur suite à cette obéissance, suite à cette action, suite à cette attitude extérieure? Ça, c'est ça, en fait. On a vu, donc, l'humilité, la souffrance qui était nécessaire à l'obéissance,
Maintenant, on va voir la troisième notion qui est l'amour, en fait, qui est véhiculé, en fait, dans ce commandement. Honorer ses parents, c'est pas juste obéir. C'est pas juste, ouais, je vais faire ce que tu me dis de faire et voilà, pour te faire. Pas pour te faire plaisir, mais pour que tu me. Voilà, pour que tu me laisses tranquille. Honorer, c'est une notion beaucoup plus forte, dans le sens où c'est quelque chose qu'on veut faire du fond de notre cœur. C'est quelque chose qui est. Comme Jésus-Christ a obéi à son Père par amour, et a eu aussi cet amour pour nous, pour mourir sur la croix, nous aussi on doit avoir cet amour en fait. Cet amour pour nos parents. Quand on fait quelque chose, c'est pas juste le faire pour qu'ils me laissent tranquille. Honorer, c'est le thème même de la Bible, c'est vraiment quelles sont les motivations, quelles sont les sources même des choses qu'on réalise. L'homme ne voit que le résultat. Mais comme je vous l'ai dit, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde aux motivations mêmes. Et là, on touche vraiment à l'amour. L'amour est nécessaire, en fait. Et juste pour vous donner une image, en fait, honorer, en grec, le verbe c'est timao. Timao qui veut dire... qui veut dire, en fait, évaluer à grand prix. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il est honoré, évalué à grand prix. Évalué à grand prix, c'est rendez-vous compte de vos parents, de la valeur de vos parents. Rendez-vous compte de ce que Dieu a placé cette structure entre guillemets en vous, enfin pour vous éduquer. Et je pense que un peu par rapport à ça, souvent on dit ouais, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Ça, c'est un proverbe, entre guillemets, païen. On choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Moi, je dis, c'est vrai. On choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Mais je dis, est-ce que c'est Dieu qui a choisi notre famille? C'est Dieu qui a choisi souverainement, dans sa toute puissance, dans sa toute grande souveraineté, le père et la mère que nous avons. Et c'est pourquoi? Parce que ça a été un choix de Dieu, nécessaire pour nous de les évaluer à grand prix. Je pense que, moi personnellement, si je réfléchis par rapport à ma situation, déjà juste en termes de scientifique, il y a une étude qui a été réalisée et qui a prouvé que 50% de nos comportements, nos attitudes, nos traits, physique déjà, c'est je pense que ouais, c'est naturel, enfin c'est biologique quoi, 50% de nos parents, mais même 50% de notre caractère est lié à provient de nos parents en fait. 50% sont liés au phénotype, c'est-à-dire à l'environnement dans lequel on va être élevé. Mais la moitié de notre caractère est déjà déterminée par nos parents. Vous voyez? Et même après que ce soit, ben, je sais pas moi, les enseignements que j'ai reçus, même en termes matériels, enfin pas mal de choses. Je sais pas à quel niveau de votre vie vous en êtes, mais si on réfléchit, enfin, nos parents sont vraiment la source de la majorité des choses qu'on a, enfin, quand on est vraiment enfant, même quand on grandit. Et même si vous réfléchissez bien, ils sont même la source de votre vie. Enfin, si vos parents n'étaient pas là, c'est votre mère qui vous a enfanté, c'est vos parents qui vous ont conçu. Et donc, moi, cette notion de d'évoluer à grand prix, en fait, se rendre compte que moi personnellement, je sais que mes parents ont fait énormément de sacrifices parce qu'ils étaient au Cambodge, il y a eu la guerre, je sais que mes parents ont failli mourir, mon père est arrivé en France, son diplôme, il était pharmacien au début, son diplôme ne valait plus rien, il travaillait dans une chocolaterie de 5h à midi. Ensuite, à 14h, il partait étudier pour refaire un nouveau métier. Il revenait à la maison vers 22h, 23h. Et ma mère aussi était vachement impliquée dans nos éducations. Donc, moi, tout ça, en fait, le point où je veux en venir, c'est vraiment rendez-vous compte, en fait. Prenez du recul. Et essayez d'évaluer à grand prix aussi vos parents. Peut-être qu'ils ont fait des mauvaises choses. Peut-être que c'est pas aussi parfait. Que, euh, que ça devrait être, mais Dieu les a placés dans votre vie. Dieu les a placés dans votre vie parce qu'il veut vous apprendre quelque chose, il veut vous apprendre l'obéissance. L'obéissance aux parents qui va pouvoir vous emmener à l'obéissance à Dieu aussi. Donc ça, c'est vraiment la troisième notion, c'est l'amour. Cet amour véritable et pas juste pour, entre guillemets, faire passer, enfin, juste pour que on vous laisse tranquille. Il y a un verset que j'aime énormément, c'est dans Jean chapitre 13, verset 35, qui nous dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc vous voyez, c'est vraiment l'amour entre guillemets les uns pour les autres qui va être le moyen le plus évident, le moyen le plus fort entre guillemets de montrer que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. C'est le moyen parfait entre guillemets. C'est comme ce qu'on a vu en fait aujourd'hui. On dit, on parle souvent de l'évangile, on parle souvent de la relation avec Dieu, mais c'est abstrait en fait. Enfin, je parle de foi, je parle de choses. Or, la foi est l'affirmation des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, quand je parle à quelqu'un de ma foi, bah, c'est des choses qu'il ne voit pas. C'est des choses auxquelles j'espère, mais que la personne ne voit pas. En fait, quand on est en Jésus-Christ, quand on a ce message de l'évangile en nous, et quand Jésus-Christ produit en nous cette repentance et cet amour qui en découle, c'est comme si nous, en fait, on devenait les mains et les pieds du message qu'on donne, comme si nous en fait on incarnait en fait le message qu'on veut donner. On parle du message de Jésus-Christ, on parle de l'amour de Dieu, mais nous sommes entre guillemets les témoins vivants de ce message. J'ai beau professer quelque chose dans ma bouche, si les actes ne suivent pas, à quoi bon? Quelle va être la légitimité et l'importance de mon message? Donc l'amour qu'on va avoir, l'amour qu'on va incarner à travers notre pensée, notre acte, et qui plus est d'abord envers nos parents, ça va permettre de montrer à quel point nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et je pense que c'est important de, comme je l'ai dit, des cercles, vous voyez, c'est le cercle principal, favori, on va dire, enfin, le premier cercle dans lequel on est baigné, c'est vraiment la famille. Si je ne sais pas montrer de l'amour envers ma famille, comment est-ce que je vais pouvoir montrer de l'amour ensuite aux autres personnes? C'est vraiment, comme je l'ai dit, la notion de cercle, vous voyez, Dieu nous a placés dans une église aussi pour nous former, entre guillemets, pour nous permettre de partager l'amour, etc. Mais à l'intérieur de cette église, il y a encore un plus petit cercle qui est la, à l'intérieur de l'église, il y a encore un plus petit cercle qui est la famille, et qui va nous permettre aussi de partager cet amour, d'éprouver l'amour, d'avoir cette envie de désobéissance, mais qui sera vaincue par la repentance en Jésus-Christ et l'obéissance à nos parents et donc l'obéissance à Dieu. Donc voilà, on a vu rapidement l'obéissance qui était bonne, agréable à Dieu, juste à Dieu. Pourquoi? Parce que elle était vraiment en accord avec l'obéissance en Jésus-Christ, Dieu ne se contredit pas. Elle était aussi en accord avec le plan parfait de Dieu, dans son ordre créationnel avec la famille. Elle était en accord aussi avec cette connaissance de Dieu, parce qu'en obéissant, on connaît Dieu, et à travers cette connaissance de Dieu, on obéit à Dieu. Donc le but final en fait de cette obéissance à nos parents, c'était cette obéissance à Dieu. Et je pense qu'il y a quelque chose qui souligne encore plus l'importance en fait de ce verset, c'est qu'une promesse nous est donnée. Je sais pas si vous vous rendez compte. Une promesse nous est donnée. Et c'est écrit, c'est le premier commandement avec une promesse. Donc Dieu nous dit de faire ça. Déjà, Dieu est tout puissant. Dieu, comme on l'a vu, avait une volonté et des raisons pour nous demander d'obéir. Mais en plus, il nous donne une promesse. C'est-à-dire, il nous donne comme si une récompense, en fait. C'est comme si il nous donne une carotte et, pour t'avancer, mais l'image que c'est quoi? C'est, ça souligne, en fait, l'importance. C'est pas juste un commandement. Bien sûr, tous les commandements sont importants, mais là, il nous donne une promesse. Une promesse pour nous, pas nous inciter, mais pour nous montrer à quel point cette obéissance est importante. Quelle est cette promesse? Alors tu vivras heureux. Alors tu vivras heureux, c'est pas je serai riche, je serai populaire, j'aurai du succès, j'aurai tout ce que je veux. Non. C'est pas l'évangile de prospérité. Amen. Pas de Joyce Meyer ici.
Mais
alors tu vivras heureux? Pourquoi tu vivras heureux? Parce que tu auras cette conviction que tu es resté dans le plan de Dieu, que c'est la volonté de Dieu que tu as faite. Et que notre bonheur, en fait, c'est de rester dans, de faire la volonté de notre Père. C'est ça même la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Et la raison pour laquelle nous voulons vivre, c'est parce que, on va pouvoir rentrer pleinement dans le plan que Dieu nous a préparé. Ensuite, il y a aussi une promesse que tu vivras longtemps. Intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, par rapport à cette notion de vivre longtemps, faut savoir que quand ça a été dit, enfin quand cette promesse a été dite, c'est une promesse en fait qui a été dite dans les 10 commandements au départ. Et c'est une promesse qui a été promise au peuple d'Israël au moment où ils étaient dans le désert. Donc en fait c'est la promesse de Canaan. Pour eux en fait, pour les Juifs, la finalité même de cette obéissance aussi c'était la récompense de Canaan. C'était une bénédiction. Bien sûr, ils allaient obéir à Dieu, mais ils allaient aussi avoir une bénédiction. Des bénédictions à travers cette obéissance. Et par rapport à vivre longtemps, pour moi, vivre longtemps, c'est plus en termes de promesse, en termes de quantité. En termes de quantité de bénédictions, en fait. Et pas en termes de... Parce que Dieu seul sait à quel moment nous serons repris. Mais c'est plus une promesse de quantité de bénédictions. On peut regarder un autre verset, Proverbe 1:8. Qui me dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne l'abandonne point l'enseignement de ta mère, car ce sont des grâces assemblées autour de ta tête et des colliers à ton cou. Écoute l'instruction de ton père et ta mère, car ce sont des grâces assemblées autour de ta tête et des colliers à ton cou. C'est des bénédictions, en fait, que Dieu nous promet, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, mais c'est des bénédictions que Dieu nous promet en termes de quantité pour nous récompenser, entre guillemets, de notre obéissance à Dieu. Dieu nous promet une vie bien remplie, Dieu nous promet une vie heureuse dans sa présence. Et qu'on rentre pleinement dans son plan à travers l'obéissance. Et c'est cette promesse que Dieu veut nous laisser pour nous inciter, entre guillemets, à obéir. Donc voilà, on a vu Jésus-Christ, l'exemple parfait d'obéissance, qui a obéi à ses parents terrestres, à son Père céleste. Nous, par notre désobéissance, entre guillemets, nous étions rebelles du fait de notre orgueil. Mais le sacrifice de Jésus-Christ et la repentance qui en découle en fait nous permet d'avoir cette connaissance de Dieu, qui nous permet d'avoir cette obéissance à Dieu, qui découle, redirigée par le sacrifice de Jésus-Christ. Non, pardon, qui est redirigée par l'exemple de Jésus-Christ, qui est redirigée par la structure de la famille que Dieu a mise en place à la création, et qui redirige aussi la connaissance de Dieu. Et cette connaissance de Dieu nous amène à l'obéissance à Dieu. Et donc, finalement, on se rend bien compte que pour être une lumière, en fait, parce que c'était le thème, pour être une lumière au sein de la famille, être une lumière déjà au sein de sa famille, c'est être une lumière. Tout court. Et donc, pour être une lumière, c'est l'importance, en fait, de Jésus-Christ. Vous vous rendez bien compte que si Jésus-Christ, entre guillemets, n'était pas dans ma vie, si Jésus-Christ n'était pas là pour être l'auteur et la personne qui va me permettre de persévérer dans cette foi, je pourrais pas obéir en fait pleinement comme Dieu l'a voulu. Donc, être une lumière au sein de sa famille, c'est déjà de revenir à la croix en fait, de reconnaître Jésus-Christ comme sauveur, de reconnaître son état de pécheur. Je sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, dans quelle relation avec Dieu vous êtes en ce moment. Est-ce que vous êtes chrétien ou pas chrétien? Mais déjà être une lumière au sein de sa famille, ça commence déjà par être une lumière. Et donc, Être mineur au sein de sa famille, ça implique aussi, donc au sein de sa famille, ça implique aussi de comprendre la famille, le plan de Dieu à travers cette famille, et de comprendre que l'obéissance qui a été voulue par Dieu à nos parents nous permet d'avoir une obéissance ensuite à Dieu. Cette obéissance que Dieu a instituée pour obéir à nos parents ramène et pointe vers cette obéissance à Dieu qui est vraiment la finalité de tout ce pourquoi il nous a créé et de ce pourquoi nous vivons sur cette terre. Donc, pour terminer, je sais pas si on passe un moment de prière ou si on se dit un petit groupe, c'est ça? Ok. D'accord, ok. Donc pour terminer, je vais prier et puis après on terminera par un chant. Père éternel, je veux juste te remercier, Seigneur, parce que tu avais un plan parfait pour nous, Seigneur, et tu as un plan même parfait pour nous, Seigneur. Depuis la création, Seigneur, tu avais déjà tout mis en place, Seigneur, pour que tout pointe vers toi, Seigneur. La création, Seigneur, la famille, tu les as créées dans un but précis, Seigneur, et merci parce qu'à travers cette famille, Seigneur, à travers nos parents, Seigneur, tu nous permets de nous façonner, Seigneur. Tu nous permets de travailler, Seigneur, notre cœur, tu permets de travailler notre orgueil, Seigneur, de nous humilier devant ta croix, Seigneur. Et cette humiliation, Seigneur, et cette obéissance à nos parents, Seigneur, nous permet vraiment de pointer vers toi, Seigneur, de pointer et de mieux te comprendre, Seigneur, et de mieux avoir cette obéissance en toi, Seigneur. Merci parce que tu nous appelles, Seigneur, à être obéissant à ta parole, Seigneur. Tu nous appelles à être obéissant à nos parents, Seigneur. Et je veux vraiment, Seigneur, que tu continues à travailler dans nos cœurs, Seigneur, et que nous nous rendions compte que ce n'est pas par nous-mêmes, Seigneur, par nos propres efforts, Seigneur, par nos propres forces que nous allons pouvoir avoir cette démarche d'obéissance, Seigneur, mais que c'est ton sacrifice sur la croix, Seigneur. Et que c'est toi seul, Seigneur, qui permet de produire cette obéissance à nos parents, Seigneur, qui pointe vers cette obéissance à toi, Seigneur. Je veux vraiment te remettre chacun de mes frères et sœurs ici présents, Seigneur. Travaille dans nos cœurs, Seigneur, et permets-nous vraiment, Seigneur, d'être obéissants à nos parents, Seigneur, pour pointer vers cette obéissance à toi, Seigneur. Je te remercie le reste de cette soirée entre tes mains et le retour de chacun entre tes mains, Seigneur. Et je te prie en son nom, ton Fils Jésus-Christ. Amen.